Chapitre 60. Quatre immeubles incurvés se dressent depuis le début des années 1970 le long de l'autoroute à Théby. Vus d'en haut, ces complexes gris forment ensemble une ellipse ouverte, comme une mandorle sur une icône. La zone du parc, recouverte de neige, est traversée d'empreintes laissées par des chiens et des humains. Yona sort de l'ascenseur au cinquième étage, enjambe une luge en plastique bleu et passe devant un escalier en mauvais état. La perruque fabriquée à partir des cheveux d'Anne-Charlotte Olson a été achetée par Veronica Nagler, qui, en raison d'une maladie auto-immune appelée alopécie totale, avait perdu tous ses cheveux. 2 ans plus tard, Veronica a été retrouvée morte dans son jardin. Après l'autopsie, la mort a été classée comme accidentelle, bien que Veronica ait eu un niveau très élevé de zolpidème dans le sang. L'échelle avait glissé en arrière sur le gazon fraîchement coupé et la femme était tombée à la renverse, se cognant la tête sur l'une des pierres disposées autour du tronc du pommier. Après la mort de Veronica, son mari Erland et leur fils Casper ont quitté la maison à Steining pour cet appartement sur la Comitwegen. Yona s'arrête devant la porte d'Erland et appuie sur le bouton rond de la sonnette. Des pas raclent le sol et la porte s'ouvre sur un homme au dos courbé, aux cheveux lissés et à la barbe grise. Il porte un gilet marron troué au niveau des coudes, par-dessus une chemise à carreaux, un pantalon remonté haut sur la taille et des chaussures en cuir marron. « Erland Nagler ?» demande Yona. « Oui, c'est moi. » Selon les registres, Erland a un peu plus de 50 ans, mais l'homme sur le seuil de la porte semble être un vieillard. Une odeur de friture et de vieux textiles s'échappe de l'appartement. Une paire de chaussures basses est posée devant un tabouret et un manteau noir pend à un cintre. Yona se présente et laisse à l'homme le temps d'examiner sa carte.
« La police de Stockholm ?»«
Oui, » répond Yona.
« Que s'est-il passé ?»
demande Erland. « Est-ce que je peux entrer un moment ?» Yona retire ses chaussures sur le tapis de l'entrée, se penche pour passer sous le plafonnier et suit Erland jusqu'à la cuisine. Le sol en liège est très usé. Un rideau de Noël rouge pend à la fenêtre. Le bac à vaisselle contient un verre et une assiette. Sur le comptoir de la cuisine, une miche de pain coupée est placée dans un sac plastique devant une boîte à pain en aluminium.
« C'est trop tôt pour le café de 11 heures ?»
demande Erland.
« Non, j'en prendrai bien une tasse, merci. J'ai une cafetière moderne maintenant. On prend de l'eau du robinet. » On mesure le café dans un filtre en papier et on appuie sur un bouton, raconte-t-il en réalisant ensuite les gestes qu'il vient de décrire.
Pratique, dit Yona.
Avant, je moulinais les grains grossièrement et je faisais bouillir le tout dans une casserole. Mon père, lui, utilisait du Klarskin, une peau de poisson séchée qu'on ajoutait au café pour le clarifier.
Tandis que la cafetière gronde, Yona suit Erland jusqu'à la salle de séjour. Les stores sont baissés. Un tapis usé est posé sur le sol en lino jaune et 2 fauteuils en velours rose font face à la télé. Sur le papier peint beige clair, une pendule à balancier en noyer verni fait entendre son tic-tac. On distingue le mouvement du pendule à travers le verre poli. Yona s'assied dans l'un des fauteuils, tandis qu'Erland retourne à la cuisine. La porte de la chambre est entr'ouverte. 2 petites haltères bleu foncé reposent sur le sol près du lit. Erland revient et dresse la table avec la cafetière, 2 tasses, des soucoupes, des cuillères à café, une boîte de morceaux de sucre et des biscuits dans un pot en plastique.
« Je comprends pas, » soupire-t-il.
« Quoi donc ?» Il lève les yeux et secoue presque imperceptiblement la tête avant d'enlever le couvercle du pot.
« On dirait presque de vrais biscuits, mais... ça a un goût. Je sais pas. Mon garçon et moi, on cuisinait chaque dimanche, mais maintenant...
Ma mère faisait les fameux Dremar et Finchkapinar, dit Yuna en posant un petit biscuit rose sur sa soucoupe. Erland met 2 morceaux de sucre dans son café, le mélange, puis frappe la cuillère contre le bord de la tasse et regarde vers le plafond.
Puis-je savoir pourquoi vous êtes ici?
« J'ai besoin de vous poser quelques questions au sujet de votre femme, Veronica, à propos d'une perruque blonde.
Ah, je vois, dit-il presque silencieusement. Je ne comprends pas. Je sais que ça peut être difficile, répond Yuna avant d'avaler une gorgée de café. La pendule sonne deux fois lorsqu'il est 10h30.
Elle mesure le temps, mais elle ne vieillit pas, dit Erland.
Nous parlions de la perruque de Véronica, rappelle Yuna.
D'abord, elle avait peur de voir les gens, quand elle a perdu sa belle chevelure. Mais, je ne sais pas, il y avait tellement de choses difficiles. Et la perruque, elle a tout simplement disparu. Elle a été enterrée sans elle, dit Erland, et son visage se tord sous la douleur.
De petites mouches gravitent autour d'une plante en pot sur le rebord de la fenêtre. Les cadres des portes en plastique ont jauni. Le coffret de Breaking Bad est posé dans la bibliothèque avec une série de livres de poche et de vieux souvenirs.
La perruque a-t-elle été retrouvée ? Demande Yuna après un moment.
Non.
Comment a-t-elle disparu ?
Véronica perdait des choses. Elle était tout le temps incroyablement fatiguée. Et elle est devenue méfiante vers la fin. Elle s'imaginait qu'une infirmière lui avait volé la perruque.
Je sais que Véronica l'a achetée chez Karl M. Lund et qu'elle a été fabriquée à partir des cheveux d'une femme nommée Anne-Charlotte Olson.
Yuna pose une photo d'Anne-Charlotte sur la table devant Erland. L'image a été prise juste après qu'elle a vendu ses cheveux pour la première fois. Elle porte une perruque synthétique bouclée blond clair, des lunettes et sourit comme si elle avait honte de ses dents.
Reconnaissez-vous cette femme ? Demande Yuna.
Non, répond Erland.
Elle habite à Rigby, pas très loin de Rimbo.
Erland secoue la tête et boit son café.
Après le décès de Véronica, j'ai vendu la maison. Et mon garçon et moi avons déménagé ici dans un appartement moderne avec douche et eau chaude, raconte-t-il l'air absent.
Votre fils vit ici avec vous ?
Casper ? Pas en ce moment, mais oui, il vit là.
Un petit silence s'installe, et Yuna entend le tic-tac de l'horloge, le son d'une radio dans un appartement voisin et le ronronnement de la circulation.
La maison nous manque. Surtout à moi. Elle était vieille, mais elle se trouvait près du lac Mellaren, avec de l'herbe, des arbres fruitiers et un hamac, raconte Erland en soupirant. Je me réveille encore à 5h chaque matin. C'est une habitude du corps. Aller au chalet d'été chercher du bois et de la paille pour chauffer la cuisine et allumer le poêle avant que Véronica ne se lève.
Erland leur sert une deuxième tasse, avance la boîte à biscuits vers Yuna, et met à nouveau deux morceaux de sucre dans son café.
« Je ne comprends pas, » dit-il presque pour lui-même.
« À quoi pensez-vous, Erland ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?» demande Yuna gentiment.
« Ensuite, dans ma solitude, je m'asseyais souvent ici pour parcourir son téléphone et j'ai accidentellement vu qu'elle avait envoyé des messages d'amour à un autre patient de la clinique. » Mais je ne pense pas qu'elle me trompait. Je ne le crois pas. Je pense juste que ça faisait partie de sa confusion.
De quelle clinique parlez-vous ?
De la clinique du sommeil à Uppsala, répond Erland.